France Culture.
À voix nue, Lisa Vignoli.
Sophie Fontanelle. J'écris.
Dernier épisode, j'écris, dit-elle. C'est peut-être celui qui compte le plus pour vous. Pendant toute la période des épisodes précédents, Sophie Fontanelle, vous écrivez. Partout, tout le temps. Sauf à deux moments de votre vie, l'un évoqué pendant vos années chez Canal+, l'autre, alors que vous êtes amoureuse du directeur du service livre d'un journal dans lequel vous travaillez et qui ne cesse de vous dire « n'est pas écrivain qui veut ». Vous avez publié 18 romans depuis. Nous avons parlé hier de votre goût pour la solitude. Est-ce que l'écriture est pour vous, plus encore qu'Instagram, votre réel moyen d'entrer en contact avec les autres?
Les deux sont, non pas se valent, mais sont tellement complémentaires, en fait. C'est que l'écriture des livres, ça me permet, moi, à moi, de m'évader. C'est-à-dire que je pars, je réponds plus au téléphone, je vis la nuit, enfin, voilà. C'est une façon pour moi de m'évader. C'est un travail très profond, obsessionnel. Mais la petite phrase que je mets sur Instagram, elle est comme une phrase que je mettrais dans un livre. Et je peux pas y revenir 800 fois. Parfois, j'y reviens quand même 800 fois. Hein. On peut modifier sur Instagram, donc je reviens, je change. C'est comme des notes que je prendrais pour l'écriture Instagram. Un livre, ce qui est complètement différent. Un jour, quelqu'un m'avait dit, c'est une sonde qu'on enfonce plus profond. Je sais pas, parce que moi je crois beaucoup à la superficialité, je crois beaucoup à une sorte de crème sur le lait qu'on prend et qui va en fait assez profond. Mais un livre, c'est la somme de travail que ça demande. C'est que beaucoup de gens pourraient écrire 10 pages, peut-être même beaucoup de gens pourraient écrire 30 pages, allez. Mais s'il faut en écrire 300, vous êtes devant le destin des personnages, vous êtes devant votre destin à vous, si vous parlez de vous, vous êtes devant l'équilibre, à quel moment on s'ennuie, à quel moment vous vous ennuyez, à quel moment vous perdez un feu sacré. Faut écrire tout le temps avec une sorte de feu sacré. Bon, c'est autrement plus difficile, je dirais.
Mais vous diriez que la littérature, vis-à-vis des lecteurs, c'est un fil invisible avec eux ou plutôt un sortilège?
Le fil invisible, c'est Instagram. Parce qu'il est comme une tétée, comme ça, que les gens peuvent prendre quotidiennement. Le sortilège, il est dans les livres. La difficulté d'un livre, c'est que vous pouvez faire un beau livre. Vous pensez que c'est un beau livre. On espère, sinon que vous ne l'auriez pas publié. Et après, il faut que les gens le lisent. Et donc, ce sortilège, pour qu'il opère, il faut déjà qu'il y en ait un autre de sortilège. C'est que votre livre soit relayé. Il faut qu'il arrive aux yeux et aux oreilles des gens, quelque part, ce texte. Là, le sortilège peut opérer. Les gens qui entrent dans mes livres, je ne parle pas des journalistes, parce que c'est différent, ils sont dans une position où ils doivent prendre une décision par rapport au livre. Mais les gens qui le trouvent à la bibliothèque, à la librairie, ceux-là qui l'ouvrent et qui rentrent dans le livre comme ça, et qu'ils prennent chez eux, ça, c'est du sortilège. Et ils me le disent, d'ailleurs, après.
Mais vous nous avez parlé de ce qui, enfant, vous accompagnait, la poésie, la littérature qui était chez vous. Mais une de vos héroïnes préférées, c'est quand même Scheherazade. Donc, est-ce que vous voyez, comment vous emportez les lecteurs façon Scheherazade, en les ensorcelant?
Ben, ça vient, on n'a pas tous la même culture littéraire. C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment élevée dans une culture littéraire poétique. Ça allait de poètes qui écrivaient de la poésie, Aragon, Éluard, Musset, Molière, enfin, je mets dans les poètes, à de la poésie chantée. C'est que Barbara, Brassens, tout ça, ça formait un monde où les choses devaient rimer. Et au passage, devaient rimer à quelque chose. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Et puis ensuite, je suis tombée dans les romans anglais et j'ai additionné. C'est-à-dire que je me suis dit, ben voilà, il faut arriver à faire quelque chose de lyrique, parce que c'est le lyrisme, il était déjà dans la poésie, puis il était dans Jane Austen ou dans Bronte, tout ça. J'ai Evelyn Waugh, il y avait après la drôlerie. J'ai additionné, et ça a fabriqué mon écriture. Mon univers. Par ailleurs, très important, j'avais découvert Jean Cocteau, et j'adorais. Donc j'avais cette idée que l'écriture est une sorte de jet sacré comme ça, quelque chose qui vous sort et faut que ce soit réussi, ça peut pas être progressif et on va petit à petit rentrer dans le livre, ça pouvait pas exister ça dans ma manière d'écrire. Je peux pas dire ça autrement que par un truc un peu fulgurant, voilà, une écriture comme ça. Il y a des gens qui préfèrent des écritures à l'os, des choses très très très, c'est très beau d'ailleurs. Il y a certaines écritures où il y a moins de cœur, mais c'est vraiment très précis, fantastique. Après, il y a des gens qui lisent l'histoire plutôt, voilà. Moi, c'était vraiment qu'est-ce que ça fait monter dans le cœur phrase après phrase. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fini par écrire en alexandrin directement ou en vers. Parce que je voulais faire monter un effet, en fait. Mais quand on dit un effet, on dit, bah voilà, c'est truqué son écriture. Non! Si c'est truqué, ça marche pas. Si c'est truqué, on écrit tout condamné, amour, aura le cœur coupé. Voilà, on écrit des conneries. Si c'est pas truqué, c'est passé par un tortillon qui fait que ça y est, c'est incandescent. Ça sort, ça fait sens.
Ce tortillon, chez vous, qui vous permet d'attraper les gens, de les emmener avec vous, souvent, il part de vous, de votre histoire. Depuis votre premier roman, Sacré Paul, parti de la mort de votre père, dont vous ne voulez rien oublier, jusqu'à l'envie, ou grandir, admirable, qui parle respectivement d'abstinence, du soin d'une mère vieillissante, de l'âge sur nos visages. Vous n'avez jamais cessé de faire ainsi, en fait. De partir de vous.
Oui, mais en fait, tous les écrivains partent d'eux. Simplement, il y en a, ils auraient tellement honte de le faire qu'ils trouvent des stratagèmes. Mais moi, je pense que ça, c'est en vous, c'est quelque chose que vous exprimez qui est complètement en vous. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis partie de choses a priori qui m'arrivaient, mais en inventant tout. D'ailleurs, les membres de ma famille sont très bien placés pour ricaner quand ils m'entendent après dire « oui, mais voilà, c'est mon histoire », en me disant « mais d'où c'est ton histoire ? Ce n'est absolument pas ton histoire ». Notre grand-mère n'a pas eu une page de Vogue coincée dans sa manche. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça le sortilège. C'est que c'est comme si, en fait, pour moi, si c'était juste raconter mon histoire, ça n'aurait pas de sens. Si c'est raconter à travers ce que j'ai envie d'imaginer être mon histoire, si c'est une façon d'aller rejoindre les autres, de les toucher et qu'ils se disent, moi aussi, c'est comme, je suis comme ça, à ce moment-là, c'est réussi. Et je n'ai jamais pensé à écrire un livre sans l'arrière-pensée, justement. Ça va raconter les gens, en fait. C'est jamais moi que je veux raconter dans les livres. Mais pour plein de raisons, je fais comme si ça partait de moi. D'abord parce que c'est à la source, il y a toujours l'idée me vient, parce que effectivement, je ne fais pas l'amour, effectivement, je me suis occupée j'ai essayé de rendre belle la vie d'une mère âgée, qui, jusqu'à sa mort. Ces choses-là me sont arrivées. Mais tout le temps, je voulais que le propos... Enfin, c'est le rêve de tout écrivain, toujours que ce soit universel. Mais, comme disait George Orwell, certains sont plus égaux que d'autres, certains sont plus universels que d'autres. Il y en a, ils y arrivent moyennement, en fait. On reste dans leur histoire. D'autres, non. On oublie complètement que c'est leur histoire.
La contrepartie de cette façon dont on parlait hier, d'être très très dans l'époque, de vraiment la saisir... C'est que souvent, ce sont les services sociétés des journaux qui s'emparent de votre œuvre, plus que les pages littéraires.
Pendant très longtemps, j'en ai souffert. Je trouvais que c'était injuste. Alors, c'est vrai que je tendais les verges pour me faire battre, comme on dit. C'est-à-dire que je m'occupais de mode, ou bien j'écrivais des articles drôles, je travaillais... À une époque, à Cosmopolitan, bon, j'avais pas encore publié mon premier livre, mais j'étais pas prise au sérieux vraiment par les gens parce que je faisais des choses futiles. Et je me souviens de mon premier livre, un manuscrit que j'avais donné à l'époque à Michel Butel, un homme exceptionnel qui n'avait aucun a priori, et avait créé l'autre journal, qui était écrivain lui-même, et il avait filé mon manuscrit à Simone Gallimard. Et elle était tellement ulcérée, parce qu'elle avait parlé autour d'elle, elle avait compris que j'étais quelqu'un d'assez marrant. Oh, ça l'avait, mais ça l'avait vraiment énervée. Elle m'avait envoyé une lettre en me disant « Je ne comprends pas comment une seule seconde Michel Butel peut penser que je puisse aimer un tel livre. » J'avais vraiment l'impression que j'avais fait un tas de caca. Voilà, elle est emblématique des difficultés que j'ai rencontrées. Maintenant, ces difficultés ont disparu. Ça ne veut pas dire que les services littéraires parlent de moi, mais ça veut dire que je n'ai plus besoin d'eux, en fait. Et je suis ravie quand ils font attention, quand ils le voient, quand ils en parlent. J'ai beaucoup de respect et pour ces gens en tant que critiques littéraires et aussi souvent pour leurs écrits. Mais c'est pas eux qui ont droit de vie ou de mort sur moi. J'ai réussi à fabriquer ça.
Mais indépendamment du fait de l'accepter, est-ce que avec le temps vous l'avez compris ? Est-ce que vous avez compris qu'en fait on peut pas être un écrivain sérieux quand on est trop drôle, quand on a un corps, quand on parle de vêtements.
Moi, je crois que le milieu littéraire, comme tous les milieux, je connais bien celui de la mode, je vois tous ses défauts. Bah, le milieu littéraire, il a plein de défauts. Quand j'étais jeune écrivaine et qu'il fallait que je commençais quand même à aller dans les maisons d'édition, on commençait à remarquer mon écriture parce que j'écrivais aussi journalistiquement, donc on voyait, j'étais approchée par des gens et que je voyais les rapports de séduction qui étaient immédiatement en place. Moi qui déteste ça. Quand je voyais la façon de qu'avaient certains éditeurs, mais géniaux d'ailleurs, de vouloir prendre du pouvoir sur moi. Mais je me disais, mais ça va jamais marcher. Je me souviens d'un jour, il m'a édité formidablement bien, il a été un éditeur extraordinaire, de Jean-Marc Roberts. Et je me souviens d'un déjeuner où il m'avait dit, il faut que tu apprennes à me séduire. Et j'avais senti ma colonne vertébrale se glacer. Il était très respectueux, hein, c'est pas la question. Et je m'étais dit, non, mais je peux pas, quoi. Ça m'a donné envie de partir en courant. J'avais pas envie de cette relation-là. Et ce milieu, peut-être ça a changé, ce milieu, il fonctionnait quand même un peu comme ça. Il y avait un rapport de force. Alors il y avait un rapport de force aussi avec des femmes puissantes de l'édition qu'il fallait aussi courtiser. Il fallait en fait considérer que leurs paroles étaient évidemment le couperet éventuel qui pouvait tomber sur votre tête. Moi j'ai un tel couperet toute seule que je me mets sur ma tête que c'est pas la peine d'en rajouter avec quelqu'un d'autre. Et le bon éditeur que j'ai trouvé, c'est celui qui est venu complètement avec tendresse me dire « Est-ce que je peux y aller ou est-ce que je peux pas y aller ?» Et qui a commencé à y aller, c'est-à-dire au lieu de me mettre un couperet sur la tête, il a dit « Voilà, tu feras ce que tu voudras. Mais voilà, j'ai l'impression que ça. » Et là, j'ai commencé à me dire « Il peut me faire aller plus loin. » Mais tant que j'ai pensé que c'était l'autorité d'un milieu qui s'abattait sur moi, ça m'a pas plu.
Vous l'avez rapidement évoqué, mais vous diriez que le milieu littéraire est tout aussi codifié que celui de la mode, presque.
Il est incroyablement codifié. Et surtout, il a c'est comme il y a une chanson de Souchon qui dit « Si c'est à tout le monde chez nous, c'est du sale mélange et ça nous dérange. » Et le milieu littéraire n'a pas envie d'accueillir des êtres hybrides. Mais ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Une fille comme Clara Isé, elle est éditée,
oui.
Voilà, qui est chanteuse. Elle est éditée chez Segers en poésie. Donc c'est maintenant presque un combat d'arrière-garde. Et puis le monde des livres a compris que il avait intérêt à approcher des gens qui savaient parler au grand public. Parce que le grand public, vous pouvez passer votre vie à le mépriser, mais le grand public, il est capable d'aimer Aragon, hein. Donc, il n'est pas si méprisable, hein, loin de là.
Vous disiez que les choses avaient évolué quand vous avez publié Le plus jeune métier du monde, donc sur les années que vous avez passées chez Canal, qui était donc un ouvrage sur la télévision. À l'époque, une émission sérieuse qui hésitait à vous inviter parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça vaille le coup. Alors qu'on hésitait à vous inviter, vous aviez vous-même envoyé votre livre à Pierre Bourdieu parce qu'il avait écrit un essai sur la télévision. Qu'est-ce que vous lui aviez dit ?
Pierre Bourdieu, ma tante, était son assistante. Alors, elle était décédée depuis longtemps, au moment où j'ai écrit à Pierre Bourdieu. Mais je le connaissais pas, mais je savais que si je citais le nom de ma tante, il allait prêter une petite pupille attentive. Et il m'a envoyé une lettre extraordinaire. Au moment où l'émission de télévision dont vous parlez se demandait si vraiment, elle était très intellectuelle cette émission, et si vraiment ça valait le coup de m'inviter, lui me disait, je n'en reviens pas que en utilisant des moyens complètement différents de moi, avec une légèreté, avec une façon de faire complètement aérienne, vous ayez réussi à dire ce que je dis dans des essais. Il dit, quelque part, je vous envie. Et c'était adorable de me dire ça. Ça était peut-être une, pour partie de la gentillesse, juste. Mais c'était peut-être pas que ça. C'était peut-être aussi que, voilà, c'était un grand cœur, en fait, Bourdieu. Et il était loin d'être aussi sectaire que les gens qui se revendiquaient de son école.
Est-ce que ça vous arrive, vous, aujourd'hui, d'être approché par des jeunes gens qui écrivent et qui vous contactent pour que vous les aidiez, que vous les accompagniez? Est-ce que vous incarnez ça chez la jeune génération qui pourrait être un peu plus hors cadre que la littérature classique, que le milieu littéraire classique?
Alors maintenant, il m'arrive deux choses. Il m'arrive d'un côté, les gens qui écrivent des livres, ils demandent à l'éditeur de me l'envoyer parce qu'ils se disent que si je fais un post Instagram, c'est bien. Et puis aussi, ils aiment bien ce que je fais. Donc, voilà, il y a cette connivence, mais moi, je suis pas critique littéraire, donc je fais comme je peux. Et ensuite, il y a tous les gens, évidemment, qui m'écrivent, peut-être un ou deux par mois, parce que je crois que la chose la plus importante et le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un qui écrit, c'est qu'il soit jugé, si je puis dire, par une personne qui se demande si elle va pouvoir le vendre ou pas. Le vendre, ça veut pas dire en vendre beaucoup. Ça veut pas dire faire un best-seller, mais c'est est-ce que moi, éditeur, je veux mettre ce livre, je veux passer du temps à travailler dessus éventuellement, je veux le mettre sur du papier, je veux engager l'économie de ma maison d'édition pour ça. C'est très important puisque c'est la foi première, indépendamment de celle que vous avez quand vous écrivez, c'est la foi première de l'éditeur. Donc je dis aux gens, je peux pas vous aider. Il faut que vous alliez vous frotter aux maisons d'édition. Mais c'est un petit peu salaud, parce que dans les maisons d'édition, c'est plein de gens qui lisent les manuscrits en diagonale. Voyez, c'est dur. Mais enfin, lire en diagonale, c'est parfois pas mal non plus.
Vous parlez du fait de vendre. Vous vendez beaucoup de livres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si justement un éditeur a ce regard-là, si vous alliez voir Gallimard aujourd'hui avec ce que vous vendez, c'est-à-dire plus que la plupart de leurs auteurs, en fait, ils auraient un point de vue différent que cette dame qui vous a un peu méprisé il y a plusieurs années?
Eh bien, ce qui a changé, c'est pas mon succès. Ce qui a changé, c'est les gens dans les maisons d'édition. Parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis presque sur Instagram. Avant, j'étais déjà sur une sorte de, sur des blogs, des choses comme ça. Et donc, il y a une génération d'éditeurs et d'éditrices qui a été élevée en me suivant. Quand mon nom apparaît, ils disent « oui, oui !» Parce que je représente quelque chose pour eux, et pas juste sur le réseau social. C'est une globalité. C'est-à-dire qu'eux, ils embrassent tout. Et ça ne les dérange pas du tout. Vous savez, comme on dégenre hommes et femmes, ben, eux, ils ont dégenré aussi sur des cases qui seraient chanteurs, écrivains, influenceurs, enfin, je sais quoi. Ils s'occupent pas de ça, tout est dégenré.
Vous ne vous êtes jamais de votre vie, pour être vu différemment par ce milieu littéraire, dit « je vais faire autrement » ?
Non, franchement, faire autrement, ça a été pas avoir besoin d'eux. C'est comme ça que j'ai fait autrement. Au début, j'ai vu qu'il y avait une résistance même à ouvrir les livres, et puis après, ils les ont ouverts. Et on dit pas ça sur France Culture, mais je vais le dire quand même, ça leur faisait un peu mal au cul, en fait. Et ils ont pas voulu ouvrir la porte non plus. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, la porte, elle s'est ouverte, ou bien je suis passée par la fenêtre. Et puis, vous dites que je vends beaucoup de livres, j'en vends, je sais pas si j'en vends tant que ça, j'en vends bien, comme
on
dit.
Par rapport à la moyenne des écrivains français, oui.
Oui, ça c'est sûr. Mais
largement.
Mais par rapport au nombre de followers que j'ai sur Instagram, au fond, c'est toute petite part des gens qui achètent les livres. Mais ça, cette part-là, elle est fidèle, elle grossit, elle est intelligente, et c'est ça qui compte.
Vous êtes depuis quelques années membre du jury d'un prix littéraire et c'est un sacré effort pour vous car vous ne lisez presque jamais en fait vos contemporains, même si les maisons d'édition vous les envoient quand les livres sortent. De quelle littérature vous vous nourrissez aujourd'hui ?
J'aime bien lire les livres longtemps après. C'est pour ça que je souffre à être dans un jury. Et aussi, j'aime pas beaucoup, je l'ai dit à un moment de tous ces entretiens, j'aime pas beaucoup donner un avis négatif. Donc, j'en donne quand même, hein, je me suis lâchée dans ce prix parce que tout d'un coup, bon, mais ça me rend pas heureuse. En fait, ce que je crois, c'est que ce qui fait que je ne lis pas les livres qui viennent de sortir, mais j'en lis hein, quand même un petit peu, mais ce qui fait que je ne les lis pas, c'est que moi, je suis tout le temps en train d'écrire. Et je vais puiser, un peu comme d'ailleurs dans la mode, on va se sourcer, je vais me sourcer. Dans la mode, on se source au Louvre. Et puis dans la rue, ben moi, c'est pareil. Je me source au Louvre des livres, c'est-à-dire je lis... tout d'un coup, Cioran, des choses comme ça, et je me source dans la rue. Mais je me source pas sur Netflix, voyez. Et pour moi, les livres qui sortent, aussi bons qu'ils soient, c'est comme si c'était Netflix pour moi. C'est-à-dire que ça sort, c'est le présent, c'est la culture présente. Sans doute, sur Netflix, il y a des tas de choses bien, j'en vois des choses très bien, mais c'est pas là que je vais aller puiser ma source. Et au fond, très égoïstement, je ne lis que pour me sourcer. Ça, c'est la vie d'un écrivain.
Mais est-ce que c'est pas une façon de rejeter même une sorte de milieu littéraire d'une certaine façon? Vous voyez, dans le milieu littéraire parisien, on parle de ce qui vient de sortir, il faut avoir lu tel livre. Vous, il y a aussi des choses qui vous agacent dans la littérature contemporaine, comme les remerciements à rallonge. Vous n'en faites jamais, par exemple, à la fin des livres. Est-ce que c'est pas une façon de rester hors de ce cadre-là, en fait, de dire je ne suis même pas capable de commenter le livre dont tout le monde parle ces jours-ci?
Les remerciements, ça m'énerve, ça c'est sûr. Ce qui m'énerve encore plus, c'est les gens qui mettent une phrase absolument géniale de Saint John Perse au début de leur livre et tout le reste du livre est merdique. Et donc je me dis mon Dieu, mais les bon voilà, mais j'ai pu le faire. C'est quelque chose, c'est voilà, c'est ça fait partie de l'histoire. Alors maintenant, il y a ce qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, si je suis honnête, dans beaucoup de livres qui sortent, je vois qu'il y a tout un réseau qui les encense, que tout est un système en fait, et qu'ils disent c'est bien. Alors moi, ça m'est arrivé d'aller l'acheter quand même, ou bien de le recevoir en raison du prix pour lequel auquel je collabore. Et tout d'un coup, je me dis quoi, c'est ça ce livre. Je pense que beaucoup de livres sont vendus par des gens qui se disent c'est ça. C'est ça. Et tout le monde se fait avoir. Alors, l'avantage, quand vous lisez un livre très ancien, c'est que vous êtes tout seul face au livre dans la librairie. Il a sa gloire, ce livre. Mais vous êtes tout seul, vous l'ouvrez, vous le reniflez. Il n'y a pas... C'est le livre du moment. Bon, en ce moment, je lis toutes les traductions de André Markowitz. Toutes. Je suis passionnée par ça. Il a entrepris, c'est un traducteur du russe, enfin notamment du russe en français, et il a entrepris de retraduire tout Dostoïevski. Il a aussi traduit Eugène Onegin. Et on se rend compte de la capacité de la langue française à épouser un rythme russe, à même dans la versification, c'est extraordinaire. Mais tout ça, ça vient de justesse et de liberté. Il va m'assassiner s'il entend ça, parce que je pense qu'il va pas dire qu'il prend de la liberté, il va dire qu'il comprend, en fait, qu'il comprend profondément. Et cette traduction, elle est jouissive, voilà. Et quand on lit tout d'un coup L'Idiot, ben on lit moi j'ai lu, quand j'étais jeune, j'avais lu une partie de L'Idiot, et là on lit L'Idiot, et c'est vivant, comme une conversation aujourd'hui qu'on aurait, et il a pas changé. Il a retrouvé tout ce que des traducteurs avaient jugé bon d'édulcorer.
Et ça, c'est arrivé à vous, entre vous et vous, dans une librairie?
C'est un mot sur France Culture, c'est une le libraire qui vous dit quelque chose. Ça, en l'occurrence, je crois, Markowitz, c'est mon éditeur qui m'a dit qu'il fallait que je lise Eugène Onegin. Parce que j'écrivais quelque chose en vers, et il m'a dit, tu devrais lire ça, c'est fabuleux. Et je me suis plongée là-dedans et je suis tombée dans le seau, quoi. Mais quand vous lisez des choses comme ça, évidemment, c'est difficile de lire un livre qui dit quand Thomas sortit de la chambre, il n'avait plus très envie de je sais plus, de Geneviève, je sais pas quoi. Vous dites, bon, je me suis fait avoir, quoi. J'aime bien les trouver aussi des écritures, peut-être ça va avec ce que vous dites, trouver des écritures que personne n'a trouvées. Pour ce fameux prix littéraire auquel je collabore, j'avais déniché un livre qui s'appelle Ultramarin de Mariette Navarro, je crois, c'est son nom. Et j'avais adoré c'était totalement inconnu, en fait, ce livre. Et j'avais adoré découvrir ça, en fait. Voilà. C'était parce que c'était ma découverte. C'était pas la découverte d'un milieu. C'est vrai. Que c'était ma raison pour avoir aimé particulièrement ce livre.
Est-ce que vous avez découvert, vous, en vous, là, à l'heure où on se parle, le sujet de votre prochain livre ? Et est-ce que vous vous imaginez, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, écrire une histoire totalement romanesque, loin de vous, d'une certaine façon ?
Je n'en sais rien. Si on prend, j'aurais bien aimé écrire L'or de Sandra. Donc, ça veut dire que l'histoire de cet homme, qui n'est pas la mienne, j'aurais adoré l'écrire. Mais est-ce que c'est pas la mienne? Est-ce que c'est pas, justement, on en revient toujours à cette histoire universelle. Est-ce que l'histoire d'un homme qui est pauvre et qui s'enrichit et qui après de nouveau s'appauvrit, c'est pas quelque chose qui est notre crainte, en fait, et notre espoir et notre crainte. Donc voilà. Et pour ce qui est de ce que j'écris là en ce moment, au moment où je vous parle, je termine un livre, je me disais ce matin en me réveillant, mais en fait, ce que je devrais faire, c'est d'en écrire plusieurs à la fois. Ça, ce serait vraiment amusant. J'en ferai un très 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 gros, que de toute manière je suis en train de faire, mais qui va prendre beaucoup de temps. J'en ferai un plus petit, et puis je ferai aussi un livre sur la mode, et puis voilà. Et j'étais partie en me disant, mais bien sûr j'aurai le temps. Donc à des moments, on devient fou.
Merci Sophie Fontanelle d'avoir passé cette semaine avec nous. Si on devait se quitter sur un mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors ?
Alors, j'ai une idée. Je suis allée en Angleterre il n'y a pas longtemps et j'ai appris que tous les mots que je disais dans la conversation pouvaient être remplacés par un mot, un autre, beaucoup plus beau, que disent les Anglais, et c'est « lovely ». Ils disent pas great, amazing, ils disent pas toutes ces choses, ils disent lovely. J'aime bien, c'est chic.
Donc on dirait Sophie Fontanelle, lovely.
On va se quitter ? Lovely. On va se retrouver ? Lovely.
Merci. C'était À Voix Nue, réalisation Marie Placé, prise de son Yvan Turc, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Lisa Vignoli, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.